On dit que... Qui on ? Qui dit ? Qui est qui ? Que croire ? Qui croire ? Si la vérité avec un grand V n'existe pas, le mensonge, oui. Affabulation, bobard, imposture, menterie, contre-vérité, manipulation. La liste est longue pour qui raconte des salades, mais aussi fables, contes, romans, fiction. Qui se souviendra de Philly Joe ? Une question et un sacré roman de cette rentrée littéraire, volumineux, vertigineux, plein de rebondissements, de fausses pistes et de vérités aléatoires. Qui se souviendra de Philly Joe ? Bonjour Marcus Malte.
Bonjour.
Un point d'interrogation dans un titre de roman, c'est assez rare.
Dans le titre peut-être, mais en ce qui me concerne, dans la plupart de mes romans, je pense que je pose plus souvent des questions que je n'apporte de réponses.
Pourquoi ces questions ?
Parce que j'ai du mal souvent à comprendre le monde qui m'entoure. Je m'en pose beaucoup de questions moi-même, donc forcément ça transparaît dans ce que j'écris. Et alors j'aimerais bien avoir plus de réponses, mais je suis plutôt dans le questionnement et dans le doute en général.
Qui se souviendra de Philly Joe, à cette question, j'ai l'impression qu'on a quand même la réponse, c'est vous.
Alors moi je m'en souviendrai, oui, j'espère, mais j'espère qu'il y a aussi quelques lecteurs qui s'en souviendront. Effectivement, c'est ce personnage, et disons un des personnages centraux, parce qu'il y a plusieurs personnages quand même dans ce roman, mais ça part de lui. Disons que toute l'intrigue, toute la trame du roman va partir de ce Philly Joe, qui va mourir très tôt d'ailleurs, dans les premières pages du roman, et qui va mourir justement dans des circonstances un petit peu étranges, on va dire, et c'est ce qui va provoquer finalement la quête, ou l'enquête, ou les deux, des autres personnages, quoi.
Et donc du romancier que vous êtes.
Exactement.
Est-ce que le roman et le romancier ont le pouvoir justement de rendre mémorable ou de créer la mémoire ? Parce qu'on est bien d'accord que ce personnage est une fiction.
Oui, tout à fait. Ce personnage est totalement inventé, imaginaire, même s'il est plus ou moins inspiré par des savants ou des scientifiques ou des inventeurs que j'ai pu découvrir et qui ont vraiment existé. Mais moi, je suis vraiment un romancier, c'est-à-dire j'écris de la fiction.
Et les personnages de fiction deviennent parfois des personnages dans l'imaginaire du lecteur.
Oui, tout à fait. Et puis les personnages de fiction sont, d'une certaine manière, contrairement à nous, peuvent devenir presque immortels. C'est ça qui est beau aussi, quelque part. Ces personnages qui n'existent pas finissent par exister plus que ceux qui existent vraiment dans la vraie vie, comme on dit.
Et par une accumulation de faits, de détails, de récits autour de ce fameux Philly Joe, on a presque le sentiment qu'il existe. Enfin, il y a un vrai doute. Je crois que tout votre travail d'écriture sur ce projet-là est de nous faire croire cela.
Alors, mon travail d'écriture est de vous faire croire plein de choses dans ce roman. Mais effectivement, je pense que dans la plupart des romans, quasiment tout passe par les personnages. Donc si le lecteur ne croit pas aux personnages, le reste, il va pas croire à l'histoire, il va pas ressentir d'émotion, il va pas se sentir concerné quelque part par ce qu'on raconte. Donc j'essaie vraiment de faire en sorte qu'on croie à ces personnages. Ouais.
Tout écrit, récit ou fiction manipule le lecteur, dites-vous. Il s'agit bien de manipuler ?
En tout cas, c'est une des possibilités qu'a l'auteur, justement. Effectivement, quand un auteur, ou un artiste en général, mais là en l'occurrence un auteur, d'une manière ou d'une autre, qu'il le veuille ou non, manipule le lecteur, ne serait-ce que parce qu'il lui délivre les éléments qu'il veut et de la manière dont il veut. la manière qu'il veut. Donc, forcément, il lui impose un point de vue. C'est une manière de manipuler le lecteur et de le faire aller dans un sens, de le faire adhérer à certaines idées ou à certaines hypothèses.
Et la question suivante, c'est qui manipule l'auteur ?
Ça, effectivement, ça devient plus compliqué. Mais je pense que l'auteur aussi, comme nous tous, est souvent manipulé... Par consciemment ou non aussi, d'ailleurs, par des tas de choses dans la vie. On croit qu'on maîtrise sa vie et qu'on prend les décisions tout à fait avec un libre arbitre, mais en réalité, c'est très faux. C'est complètement faux. 99% de nos décisions sont prises parce qu'on est influencé, peut-être pas manipulé, mais influencé en tout cas par des choses qui se passent autour de nous et dont on n'a pas forcément conscience.
Donc ce roman, Marcus Malte, qui se souviendra de Philippe Joe, raconte la manipulation qu'est la littérature, puisque vous l'assumez en tant que telle, mais raconte aussi la manipulation à l'œuvre aujourd'hui, parce que dans la sphère collective, la manipulation est omniprésente, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux, par exemple.
Oui, ça raconte l'influence, la manipulation, ce qu'on pourrait appeler la propagande, d'une certaine façon. Alors, parfois, c'est tout à fait voulu, c'est concerté et c'est fait exprès, mais parfois, c'est simplement... effectivement, vous parlez des réseaux sociaux, les gamins ou pas, ou les adultes d'ailleurs aussi, qui vont regarder peut-être un peu trop souvent... ce qu'on appelle justement les influenceurs, c'est pas pour rien qu'on les appelle les influenceurs, c'est parce qu'ils influencent d'une certaine manière. Donc ça peut, quand c'est influencé pour porter telle fringue, à la limite, bon, on se dit c'est pas très grave. Quand c'est influencé, quand ça peut vous influencer parce que pour commencer à fumer ou pour boire ou pour truc, ça peut devenir plus compliqué. Ou pour croire à certaines choses qu'on veut nous faire croire, ça peut devenir un peu plus compliqué et dangereux.
Et on peut se demander qui est derrière les influenceurs, parce qu'il peut y avoir des firmes, des États, etc. etc. Ouais. Alors, vous allez nous raconter, Marcus Malte, qui est cet homme, Philippe-Joseph Deloncle, car pour se souvenir, il faut d'abord avoir été. Mais est-ce que vous le savez vraiment, qui il est ?
J'ai une bonne idée, ouais, de qui il est. Après, personnage, c'est pas moi. Donc, il a sa part de mystère aussi et de vérité que je ne connaîtrai peut-être jamais.
Alors, le lecteur ne le sait pas non plus vraiment à la fin du roman qui est ce Philly Joe. En tout cas, pas avec certitude, mais le plaisir est quand même celui du jeu de piste. On donnera quelques indices après un au revoir, celui de Jeanne Haddad.
Ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas la fin. Je ne mentirai pas, tout ne va pas bien. Mais ce n'est qu'un au revoir, au moins jusqu'à demain. Je ne te l'apprends pas. Encore de toi.
Au revoir, seul titre en français du nouvel album de Jeanne Haddad, By Your Side, et c'est sur RFI dans De Vive Voix, émission où nous recevons aujourd'hui Marcus Malte pour son nouveau roman Qui se souviendra de Philly Joe. Alors, il est temps peut-être d'en dire un tout petit peu plus sur ce personnage qui, en effet, meurt dès la première page. Il s'est défenestré ou il a été défenestré, que le verbe soit pronominal ou transitif, c'est pas tout à fait la même chose, et le doute commence.
Oui, alors pour situer un petit peu plus l'histoire, ça se passe aux États-Unis, particulièrement dans l'État du Texas, du côté de Dallas. Philly Joe, c'est un jeune savant, inventeur, qui a toujours inventé des tas de machines depuis sa jeunesse. Et qui, cette fois-ci, prétend avoir inventé ce qu'on appelle une machine à énergie libre. Donc, en gros, pour aller très vite, une machine à énergie libre, ce serait une machine qui serait capable de puiser dans les atomes, dans les mouvements d'atomes de l'atmosphère pour transformer ça en énergie, donc éventuellement en électricité et tout ça. Ce qui veut dire que ça pourrait devenir une forme d'énergie illimitée, propre et gratuite. Ce qui ferait le bonheur de beaucoup de gens.
Mais pas des firmes.
Mais pas de toutes les grandes sociétés qui sont productrices et distributrices de ressources énergétiques, comme le pétrole, le gaz, le nucléaire, etc. Et donc, ce garçon meurt dans des circonstances un petit peu équivoques, on va dire. Est-ce qu'il s'est suicidé, comme ça semble être le cas? Est-ce qu'il a été poussé à se supprimer? Ou est-ce qu'il a été carrément éliminé, comme il le prétend lui? Parce qu'il affirme que depuis qu'il s'est mis à travailler sur cette machine, il a reçu des tas de menaces, de harcèlement, et que sa vie était en danger. Et donc, à partir de sa mort, il laisse des carnets, des documents dont vont s'emparer sa sœur et son beau-frère. Et c'est eux qui vont commencer, dans la première partie, à mener une espèce d'enquête, justement, pour savoir si cette machine existe, d'abord, si oui, où elle se trouve, et est-ce qu'il a été éliminé, comme il le prétend, par ce qu'il appelle la pieuvre, lui, donc une espèce de conglomérats de gens un peu occultes, de forces occultes comme ça qui lui voudraient du mal.
Avec cette question pour le lecteur, est-ce que c'était un inventeur génial, alors qu'il n'est pas du tout scientifique, il est chauffagiste, c'est vous qui le racontez, ou est-ce qu'il est un mythomane total?
Exactement, toute la question est là et la question va demeurer finalement presque jusqu'au bout du roman parce que le truc, c'est que donc il y a 5 parties dans le roman et à chaque fois, à chaque partie, c'est un nouveau narrateur qui intervient et qui prend la relève finalement du narrateur précédent. Sauf que la version qu'il donne est pas tout à fait la même. À chaque fois, il y a un petit truc qui change et qui fait que on croit toujours qu'on est sur la bonne piste, on croit détenir la vérité et hop, on se rend compte que finalement, il y a peut-être un truc qui cloche. Et du coup, on n'est jamais sûr. Donc, on est toujours dans le doute. Et effectivement, c'est là où je dis qu'il peut y avoir manipulation et jeu. En l'occurrence, c'est plutôt un jeu pour savoir qui dit la vérité. Comme vous l'avez dit au tout début, que croire, qui croire? C'est le leitmotiv du roman. Et on est toujours sur ce fil-là, quoi.
Alors, ce Philly Joe est un personnage inventé. Vous nous l'avez raconté, Marcus Malte. Mais il se dit être, d'une certaine façon, le successeur de Nikola Tesla, qui est ce chercheur qui a bien existé, qui a travaillé notamment sur le courant alternatif, mais aussi sur la téléphonie avec Thomas Edison, et qui lui aussi a fait l'objet de nombreuses polémiques, qui a été aussi l'objet et le sujet plutôt de quelques romans, dont celui de Jean Echenoz, Des éclairs, roman lui-même adapté en opéra par Philippe Hersant.
Ce que je ne savais pas avant de travailler sur cet opéra, c'est que Edison avait inventé la chaise électrique pour nuire à Tesla, en fait, pour montrer que les inventions de Tesla étaient dangereuses. Et donc, il a commencé par électrocuter des chats, des chiens et même un éléphant, et ensuite un condamné à mort. Donc, il a fait une démonstration pour dire voilà ce que Tesla a inventé. Ce qui c'est absolument effrayant. Il n'avait pas beaucoup de scrupules.
J'ai multiplié sa puissance par 12. Et surtout,
Qui dit vrai, qui croire? Est-ce que la légende de Tesla a été un des points de départ de votre roman, Marcus Melt?
Oui, Tesla fait partie de ces modèles qui m'ont servi pour fabriquer le personnage de Philly Joe, effectivement. Mais c'est intéressant, notamment le passage que vous avez passé, parce qu'il y a, il y a un gros contentieux entre Edison et Tesla, finalement. Et une forme d'injustice à l'égard de Tesla par rapport à Edison, parce qu'on a toujours attribué, en gros, l'invention de l'électricité à Edison, qui est hyper connu, qu'on en voit dans tous les manuels scolaires, alors qu'en réalité, c'est Tesla. L'électricité telle qu'on l'utilise maintenant, c'est Tesla qui l'a fait. Edison, au départ, a embauché Tesla pour réparer son système qui ne fonctionnait pas. Et effectivement, Tesla a réussi à réparer et à améliorer le système d'Edison. Et il s'est rendu compte à ce moment-là qu'en réalité, ça ne marcherait jamais à une grande échelle. Et donc, il a créé son propre système à lui, le courant alternatif, alors que Edison, c'était le courant continu. Et c'est ce qu'on a gardé. Sauf qu'on a gardé l'image d'Edison a inventé l'électricité. Non, c'est Tesla.
Et on n'a pas cru Tesla.
Et on n'a pas cru
pas
Tesla.
Pas assez, en tout cas, qui est un sujet du livre.
Mais justement, il y a une polémique là-dessus. Pourquoi son nom quasiment a disparu, Tesla pendant des décennies, on n'a plus entendu parler de Nikola Tesla.
Qui se souviendra de Tesla? Alors, votre personnage, Philly Joe, serait donc l'inventeur de cette machine qui transformerait l'énergie du cosmos en électricité. Mais vous lui attribue aussi le stéréo kit qui serait l'ancêtre du baladeur et il aurait aussi inventé l'ancêtre du Viagra. Je me suis dit quand même que vous chargiez un petit peu la barque et plus c'est gros, plus c'est vrai.
Non, oui, alors effectivement, après je me suis...
Ne me dites pas non, alors que vous dites oui.
Je me suis un peu amusé avec tout ça. À partir du moment où on a un inventeur qu'on a inventé, allons jusqu'au bout et essayons de trouver des trucs marrants à raconter. Donc, mais en même temps, j'ai lu pas mal de choses du coup sur ces inventeurs inconnus, si je peux dire, qui auraient inventé telle ou telle chose. Et effectivement, il me semble, alors j'ai plus trop exactement en tête le truc, mais il me semble qu'il y a des types comme ça qui ont inventé l'ancêtre du Walkman, par exemple, bien avant que le Walkman existe. Mais ces types-là ne sont pas allés au bout de la démarche, du coup, ils ont été oubliés. Et puis l'invention a été attribuée comme l'invention de la carte bleue, de la puce électronique, machin, tout ça, qui l'a vraiment créé au départ, comme Internet, comme beaucoup de choses dans la vie finalement.
Alors Philly Joe serait-il un inventeur génial ou un mythomane total? C'est une question. Il y a une autre question, puisque l'histoire est racontée, comme nous l'avez signalé, par son beau-frère, qui est veuf au début du roman, un certain Gary Sands, qui est aussi poète, il écrit. Et il va mener l'enquête à partir de quelques cahiers qu'il a retrouvés donc, à la mort de son beau-frère. Mais dans la deuxième partie du roman, on retrouve le même Gary dans le couloir de la mort au Texas, et il y est depuis 13 ans, et c'est un autre personnage d'origine indienne, Deepak Singh, qui raconte, et lui, qui croit à l'erreur judiciaire. Et là, on se dit, ce Gary serait-il coupable ou innocent? Serait-il un faux poète ou un vrai meurtrier?
Ben voilà,
et ça continue.
Effectivement, ça continue comme ça. C'est un peu le système des poupées russes, des poupées gigognes. On en ouvre une et hop, il y en a une autre à l'intérieur qui nous surprend, parce qu'effectivement... au départ, c'est Gary Sands qui mène l'enquête sur son beau-frère. OK. Deuxième partie, c'est quelqu'un d'autre qui va mener l'enquête sur Gary Sands. Et du coup...
Et troisième partie, c'est encore quelqu'un d'autre qui... Voilà, enfin, on va pas tout
exactement
raconter.
C'est ça. Et c'est le principe. C'est ce qui fait qu'on n'est jamais dans la certitude, quoi.
Mais vous pensez au lecteur qui est complètement ébranlé en vous lisant?
J'espère que ça lui plaît. J'espère que ça lui plaît d'être brinque-ballé comme ça et d'être... manipuler un petit peu, parce que c'est aussi, j'espère, une forme d'amusement, quoi. Moi, j'avais vraiment envie de me faire plaisir dans ce bouquin. Alors, au-delà du fait des sujets qui sont quand même... tout ce qui tourne autour de l'énergie, de la production, même de la propagande ou de ce genre de choses, c'est des sujets relativement sérieux et qui nous concernent de très près. Mais dans la forme et dans la manière de raconter, j'avais envie vraiment de m'amuser et d'amuser le lecteur et de le balader et qu'il prenne plaisir autant que moi à suivre ces histoires.
Marcus Balch, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre roman. On est dans la deuxième partie. C'est donc Deepak Singh qui mène l'enquête sur Gary Sands, qui se retrouve donc condamné à mort et en attente d'une exécution.
L'exemple de Galilée, que citait Philippe-Joseph de Loncle, n'était pas ridicule. En son temps, le célèbre savant avait dû se battre pour faire accepter sa thèse. Et pas seulement contre les autorités religieuses, contre ses pairs également. Combien parmi ces derniers avaient tout de suite saisi la pertinence de ses travaux? Combien avaient adhéré à ses conclusions? Combien l'avaient défendu? Ce n'est jamais chose facile que d'admettre ses erreurs et son incompétence. L'orgueil, l'amour-propre, les intérêts politiques et financiers, le pouvoir, tant de critères entrent en jeu. Et j'imagine qu'il a dû en être de même à toutes les époques, pour toutes les grandes découvertes, celles qui ont bouleversé les croyances et les connaissances établies, celles qui les ont renvoyées dans les oubliettes de l'histoire et de l'univers. Qui, à présent, oserait affirmer que le père Einstein s'est trompé? Il faudra peut-être attendre 100 ans ou 1000 ans avant de réussir à démontrer qu'il avait tout faux. Tout est relatif, pas vrai? Dictaphone. Autre direction, autre hypothèse. Se peut-il que les courriers reçus à l'époque par le docteur Riesling et ses collègues aient été en vérité l'œuvre de la toute-puissante pieuvre? Une habile mise en scène, une manipulation destinée à décrédibiliser Philippe-Joseph de Loncle. Cela expliquerait le charabia pseudo-scientifique. Cela expliquerait la fausse université, le faux doctorat et la boîte postale en Oklahoma. En m'aventurant sur ce terrain, je savais ce que ça signifiait. J'étais conscient des risques que je prenais. Dictaphone. Se peut-il que je commence à ressentir à mon tour les mêmes symptômes de cette folie, paranoïa et mythomanie, qui auraient frappé Gary Sands et son beau-frère? Et question subsidiaire, où cela les a-t-il menés? Parfois, le héros meurt à la fin.
Extrait de « Qui se souviendra de Philly Joe ?», un roman de points d'interrogation, un grand roman de la déstabilisation qu'il est impossible de raconter, puisqu'en effet, on change de narrateur entre la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième partie. C'est construit, vous nous l'avez dit, Marcus Malt, comme des poupées russes. Et j'imagine que pour l'auteur, il faut un plan de folie, il faut une architecture extraordinairement précise. Vous n'y allez pas comme ça.
Écoutez, c'est intéressant votre question, parce qu'on m'a posé la même question hier soir. Un autre journaliste m'a posé la question, parce qu'il y avait une rencontre. Et quand je lui ai dit que non, je n'avais absolument aucun plan, il n'a pas voulu me croire.
Donc, voilà, on est deux.
Ouais, voilà. Mais pourtant, c'est la vérité. Très, très sincèrement, moi, chaque fois que j'écris un roman, je ne sais absolument pas ce que je vais raconter, ni où je vais. Et là, pareil. Et donc, l'histoire, d'une certaine manière, je la découvre comme le lecteur au fur et à mesure. Et ben voilà, quand j'arrive à la fin de la première partie, par exemple, même pas, la première phrase, je parle de ce Philippe-Joseph de Loncle dans la première phrase, je ne sais absolument pas qui il est. C'est juste le nom qui me plaît. Le nom me plaît, je me dis, tiens, voilà, la phrase me plaît.
Mais vous savez quand même qu'il est américain, qu'il a inventé un truc.
Oui, vaguement.
Bah, pas plus.
Ouais, non. En fait, j'avais le Philly Joe en tête. Philly Joe, le nom plaisait, le surnom plaisait, comme ça, je me suis dit, tiens, Philly Joe. Et donc, du coup, Philly Joe, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, Philippe-Joseph. Philippe-Joseph, ça, c'était intéressant. Bon, après, il y a effectivement des choses qui ressortent, parce que j'avais fait, moi, avant, des recherches sur des Philippe-Joseph de Loncle et comment dire, est un descendant de Français. Il habite aux États-Unis, c'est un Américain, mais il est descendant de colons français qui, au milieu du 19e siècle, se sont rendus aux États-Unis, au Texas en particulier. Tout ça, c'est vrai, par contre. J'avais fait, moi, des recherches là-dessus pour un autre roman que je n'ai pas écrit, finalement. Et c'était des gens de l'époque de Proudhon, tout ça, cette espèce de socialisme utopique, qui étaient partis faire des colonies, des communautés, finalement, qui avaient ce rêve-là, et qui avaient fondé cette communauté qu'on appelle La Réunion, au Texas. Et donc, il est un des descendants de ces Français.
Donc, vous ne savez pas où vous allez, Marcus Malte, mais quand même, vous savez d'où vous partez, parce que ce livre, qui est une pure invention, qui est un plaisir de lecture, parce que plein de rebondissements, est très documenté. Vous décrivez avec une très, très grande précision les couloirs de la mort aux États-Unis, mais aussi les manipulations des services secrets de la CIA. Moi, j'ai découvert, par exemple, grâce à vous, l'opération Mockingbirds dans les années 40, qui a fait que la CIA a manipulé les opinions publiques, mais de façon très consciente.
Oui, oui, tout à fait, il y a eu ce genre de choses. Mais cette documentation, je la fais au fur et à mesure de l'écriture, en fait. Quand je me trouve à un moment donné, voilà, quand je sais que j'aborde ce sujet-là dans le roman, bon, j'y suis. Alors maintenant, maintenant que j'y suis, je vais chercher, je vais me documenter là-dessus. Et ça me nourrit en même temps. Ça nourrit effectivement la fiction. Ça m'apprend des choses, parce que moi, je ne connaissais pas plus que vous cette opération Mockingbird. Mais comme je suis assez curieux, je vais gratter, je découvre des choses. Et je me dis, tiens, si je vois que ça peut apporter quelque chose à l'histoire, hop, je m'en sers.
Et on est toujours quand même sur le fil. Entre la fiction, la manipulation, et on pourrait croire parfois que tout est manipulation. D'ailleurs, vous le laissez entendre, ça pourrait être lu comme un roman complotiste ou de Monica Lewinsky à Dominique Strauss-Kahn. Tout est manipulation.
Oui, tout pourrait être manipulation. Effectivement, je joue un petit peu aussi avec ça, parce que c'est dans l'air du temps aussi, manière de détourner la réalité que certains hommes politiques peuvent avoir, ou pas que des hommes politiques, d'autres personnes en général. Qu'est-ce que la réalité et comment on la raconte, et est-ce que ça compte finalement ?
Donald Trump a joué un certain rôle, non ? Dans l'écriture de ce livre.
Oui, enfin, Trump, il n'a pas joué un rôle direct, mais en tout cas, je trouve qu'il avait un lien. Il avait un lien avec les sujets que j'abordais, et du coup, ben, on le retrouve aussi. Comme il m'a manqué depuis qu'il est plus.
Il vous manque ?
Ah, ben, c'est bien sûr, tous les jours, je pense à lui.
Non.
Non, si je pense à lui, c'est pas pour des bonnes raisons. Mais donc voilà, je trouvais qu'il, lui aussi, il a beaucoup joué avec cette fausse réalité, comment on dit, post-vérité, un truc
la
comme ça.
Post-vérité, oui.
Voilà. Voilà, il avait aussi dit beaucoup de mensonges, et puis il a fait aussi beaucoup de choses contre l'écologie, si je puis dire, parce qu'on rejoint aussi ce sujet-là, on ne l'a pas encore abordé, mais...
Oui, parce que c'est un roman joyeux, enfin joyeux à la lecture, mais quand même très très sombre. Philly Joe annonce quasiment la fin du monde par étouffement en 2040, et ce, notamment parce que les États-Unis se seraient retirés de l'accord de Paris.
Ben, entre autres, oui, c'est pas... Malheureusement, j'aimerais bien que ce soit que Philly Joe qui nous annonce ça, mais beaucoup de gens pensent qu'on est quand même plutôt mal barré. Alors, 2040 ou un peu plus tard, ou un peu plus tôt, selon les trucs, mais si on continue dans cette voie et aussi vite, ça va mal finir, d'après ce que j'ai compris.
Donc, un roman sombre.
Ben, un roman qui aborde des sujets compliqués et difficiles, oui.
Merci beaucoup, Marcus Malte. Qui se souviendra de Philly Joe ? Moi aussi. Le roman est édité chez Zulma. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. Émission à réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.